Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée par Margot Le Ridon et Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hudon, c'est le grand retour, et mise en onde ce matin par Clément Daté. On poursuit notre série consacrée au travail. Nouvelles conditions, s'intéresse aux mutations de ces conditions de travail. Après avoir évoqué le burn-out hier, penchons-nous aujourd'hui sur les travailleurs précaires, ubérisés, ces forçats de l'économie numérique, les exploités de la zone grise. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Des fois, on est disponible plusieurs heures pour la boîte et si on n'a pas de commande, on est payé 0 euro.
Quand on est entrepreneur, vous n'avez aucune couverture sociale. Vous tombez, c'est pour votre pomme. Vous perdez de l'argent parce que vous arrêtez de travailler, donc vous n'êtes plus payé. Mais en plus, vous devez payer les frais médicaux qui s'avèrent quand même assez chers en général.
Ils vous disent que vous êtes votre propre patron, ce qui est absolument faux, puisque pour gagner le minimum vital, vous devez conduire entre 12 heures et 13 heures par jour.
Nous sommes leurs partenaires. Nous leur permettons de fonctionner. S'ils ne nous respectent pas, qui va garantir qu'ils respecteront leurs investisseurs ?
Ces plateformes ont une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs indépendants avec lesquels elles sont en relation. C'est pourquoi cette responsabilité sociale doit contenir de nouveaux droits, plus contraignants pour les plateformes.
Livreurs, cyclistes, chauffeurs de VTC, mais aussi bricoleurs ou aides ménagères à la demande, ils sont nombreux pour arrondir leur fin de mois ou simplement gagner leur vie à rejoindre les garnisons de plateformes comme Uber, Deliveroo, TaskRabbit ou encore MyHammer. Officiellement indépendants, ils sont pourtant contrôlés, évalués par ces entreprises et leurs algorithmes. Contrairement aux freelances classiques, ils ne peuvent pas négocier leur salaire et sont liés par bien davantage qu'un simple cahier des charges. Pour autant, le statut de salarié ne leur est jamais octroyé a priori. En France, un projet de loi vient d'être adopté dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités. On entendait d'ailleurs Béatrice Couillard, la rapporteuse de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui s'exprimait justement à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Alors que prévoit ce texte? En quoi modifie-t-il les relations entre les plateformes et les travailleurs indépendants? Quels effets peut-on en attendre? Et au-delà du cas français, quel statut, quelle protection pour ces travailleurs des plateformes? Comment améliorer le statut de ces travailleurs sans mettre en péril cette nouvelle économie numérique dite des plateformes? Pour mesurer justement ces transformations produites par cette économie des plateformes, mon invité ce matin, Odile Chani, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, membre de l'IRES et coordinatrice du réseau Sharers and Workers. En quelques mots, ce réseau?
C'est un réseau qui met autour du sujet des plateformes, notamment du travail des plateformes, les parties prenantes de l'économie des plateformes. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un peu une forme d'agora qui crée du dialogue et de la concertation là où, justement, en fait, les acteurs ne se connaissent pas.
Ouais. Voilà. Patrice Saint-Golani, merci beaucoup d'être avec nous également.
Bonjour.
Vous êtes, vous, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, je pense à La précarité qui était paru aux presses universitaires de France, mais aussi Révolution précaire, essai sur l'avenir de l'émancipation qui était paru à La Découverte. Odile Chani, on va commencer avec vous pour évoquer cette loi d'orientation sur les mobilités. L'article 20 a comme objectif de sortir justement de cette zone grise que j'évoquais, du droit des travailleurs indépendants qui collaborent avec ces plateformes numériques. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, disait « Nous allons rééquilibrer les relations entre ces travailleurs et les plateformes. C'est une condition pour assurer l'attractivité dans la durée de ces métiers. » Est-ce que, d'abord, vous pouvez nous rappeler peut-être, Odile Chani, ce qu'il y a dans cet article et ce que ça pourrait changer concrètement?
Alors, cet article, en tout cas qui a été adopté le vendredi dernier, il était très très attendu par tous ceux qui réfléchissent à l'évolution de l'approche française de protection qu'on apporte aux travailleurs des plateformes. D'abord, il tombe pas du ciel, hein, du tout. En France, on a démarré par la loi El Khomri en 2016. Qui a signifié une approche un peu particulière de la France, c'est-à-dire l'idée de dire, il faut un petit peu laisser le business se faire, mais aussi il faut apporter des protections et un encadrement des travailleurs de plateforme. Et donc la loi El Khomri,
on avait créé un droit de grève déjà à l'époque. l'époque. Et sur alors, la
tout à fait, la loi El Khomri, en fait, elle a posé le principe de la responsabilité sociale des plateformes, qui était évoqué d'ailleurs dans l'extrait qu'on a entendu. Il s'agissait déjà à l'époque pour les plateformes, il s'agissait aussi de se couvrir contre le risque de requalification. Et en fait, l'étape qu'on a franchie vendredi dernier, donc avec l'adoption de la loi Alam, c'est une étape qui va plus loin que la responsabilité sociale de la loi El Khomri, parce qu'en fait, elle pose le principe de la possibilité pour les plateformes, donc qui relèvent toujours du champ de celles qui sont concernées par la loi El Khomri, c'est-à-dire que c'est pas toutes les plateformes, hein, vous avez pas les plateformes de freelance, enfin, on est vraiment bien dans les travailleurs qui se travaillent comme pour Deliveroo, Uber Eats, etc. Elle pose le principe que les plateformes peuvent unilatéralement décider d'adopter des chartes dans lesquelles, bah, quelque part, elles renforcent la protection des travailleurs, donc ça va sur les compétences, ça va sur la prévention et la connaissance sur les conditions de travail, ça va sur la possibilité de négocier un prix minimum, et puis ça va aussi sur une capacité d'orientation et du dialogue social. Y a d'autres éléments qui sont importants dans la loi telle qu'elle a été adoptée vendredi.
C'est encore un projet de loi. Hein.
L'article, excusez-moi. Je vous en prie, mais
pour que les auditeurs s'imaginent pas que ça y est, c'est définitif, c'est pas encore définitif, c'est encore en discussion et c'est le projet de loi qui a été adopté.
Tout à fait, voilà. Tout à fait, absolument. Le vote a eu lieu vendredi, effectivement. Donc on s'est déjà passé au Sénat, c'est revenu à l'Assemblée nationale, puisqu'effectivement, oui.
Absolument. Quelques éléments, j'indique, hein, pour les auditeurs, pour être un peu précis sur justement ce qu'il y a dans cet article 20. Il y a cette charte, on va y revenir parce que c'est absolument central. Il y a un droit à la déconnexion, qui permet aux travailleurs de ne plus être forcément le nez rivé sur leur smartphone pendant une course et refuser un client. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les travailleurs sont souvent pénalisés en cas de refus. Il y a un deuxième élément aussi qui est le droit de connaître au préalable le prix minimum d'une course. Et il y a un droit à la formation aussi. Trois autres éléments qui sont dans cet article. Peut-être, Patrick Singolani, une première impression. Alors, je crois que vous connaissez pas forcément le détail de cette loi, mais on voit que là, il y a des avancées. Il semble pas que ça apporte complètement satisfaction parce qu'on a vu un certain nombre de chauffeurs VTC, notamment, qui représentent ce secteur-là, dire que c'est très largement insuffisant. Mais est-ce que vous dites quand même que c'est une avancée?
La question, à mon avis, la question un peu centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait de éventuellement la requalification en salarié. Je me souviens que le problème de la loi El Khomri ou de la loi travail, c'était précisément d'avoir mis un argument ou un article dans lequel la question de la requalification était exclue. Il y avait effectivement le droit de grève, etc., etc. Mais la requalification était exclue. Et je pense que là,
c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Et cela pose à la fois un problème autour d'une obsession de la requalification en salariat, mais aussi plutôt autour d'une problématique aussi de la prise en compte de la dépendance. Au fond, ce sont souvent des travailleurs indépendants, économiquement dépendants, et au fond il y a l'exigence d'une créativité juridique qui manifestement, enfin en tout cas, n'apparaît pas dans ce texte, même s'il y a des aménagements.
C'est vrai, Odile Chani, que cette loi, ce projet de loi, il conserve quand même le principe du statut d'indépendance des travailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer ce cap-là?
Alors déjà, je voudrais réagir sur la question de la requalification. C'est vrai que sur le papier, il est dit que le fait d'homologuer, d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est l'homologation des chartes protégera contre le risque de requalification. Mais en fait, rien ne protège de la requalification, c'est-à-dire que le juge pourra toujours continuer statuer sur le statut des travailleurs. Donc c'est la protection contre ce risque. Et en plus, il y a pas mal de juristes, enfin d'interprétations depuis vendredi, qui consiste à dire on cadre tellement de manière précise ce qu'il ne faut pas faire que quasiment on est en train de flécher sur les indices qu'il faudra regarder en cas de requalification. Il y a plusieurs manières de réfléchir au statut et aussi aux aspirations et à la façon d'accroître la protection des travailleurs qui sont intermédiés par les plateformes. La première, c'est de dire quelque part tout le monde, enfin à vocation, parce qu'il y a une dépendance économique ou une dépendance ou un lien de subordination, à être requalifié et salarié. Mais il y a aussi plein d'autres manières de réfléchir à ça, et, y compris en tenant compte du fait que un certain nombre de ces travailleurs là, et je pense en particulier à la population VTC, ne souhaitent pas forcément du tout être requalifiés. Par contre, ils ont volontairement, et c'est là où ça renvoie à une autre question qui est fondamentale aussi, ils n'ont pas de pouvoir économique de négociation face aux plateformes. Eux revendiquent le fait de pouvoir être un acteur économique avec un pouvoir de négociation sur le prix.
Sur les chartes, parce qu'effectivement, ces plateformes sont invitées, je dis bien, pas contraintes, mais invitées à rédiger des chartes, je cite, précisant les contours de leur responsabilité sociale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Une charte, ça reste une déclaration d'intention qui ne force en rien. Est-ce qu'il faut, une fois encore, se réjouir de cette avancée, ou est-ce qu'il faut, au contraire, s'en inquiéter et se dire que peut-être, précisément, ces chartes sont le début d'un autre chose qui serait un recul finalement progressif pour tous les autres secteurs, où finalement tout le monde finirait par faire un peu ça. La charte et tout le monde y perdrait d'une certaine manière. C'est un peu les craintes qu'on entend, Odile Chani.
Il y a du pour et du contre dans ce qui a été adopté vendredi dernier. De fait, ce qui incite beaucoup à la prudence, c'est le fait que ces chartes sont unilatérales. C'est-à-dire, en gros, c'est la plateforme qui... avec l'autorisation de l'administration, donc du ministère du Travail, de la DGT, ou des directs, pourra mettre en œuvre un certain nombre de mesures de manière unilatérale. Ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout garant d'une qualité et de dialogue social et d'amélioration concrète des conditions de travail. Et c'est probablement pas le niveau auquel il faut négocier. Mmh. Ce qui est très positif, par contre, dans ce qui a été adopté vendredi dernier, c'est qu'il y a des éléments qui n'étaient pas prévus, notamment justement ce que vous avez évoqué sur la transparence, quelque chose qui est demandé par les travailleurs, d'avoir une visibilité avant de se connecter à l'application sur ce qu'ils vont faire. Un chauffeur VTC à l'heure actuelle, il ne sait pas avant d'accepter la course où il va aller et combien il va gagner. Ça effectivement c'est quelque chose de positif. Mais bon, les plateformes elles peuvent toujours, les algorithmes sont souples, les algorithmes s'adaptent. Et le deuxième élément qui est très positif, c'est ce qui a trait au dialogue social. Il y a une annonce qui était importante qui a été faite par le gouvernement, qui a déposé un amendement en ce sens et qui en fait ouvre une période qui va être aussi une période de concertation pour se poser sur la question du dialogue social et de la représentation des travailleurs de plateforme.
Mais c'est un texte qui prévoit la mise en place d'un dialogue social d'ici un an. Est-ce que justement, d'ici un an, ce dialogue social, Patrick Saint-Golani, on peut s'attendre à ce qu'il soit meilleur? Est-ce que les salariés, justement pas les salariés, les travailleurs, vont pouvoir s'organiser et commencer à créer un rapport de force avec... leur employeur, parce qu'il s'agit bien de ça, ou est-ce que vous n'y croyez pas à ce dialogue social? On voit la difficulté qu'il y a à le mettre en place dans ce secteur-là.
Oui, je voudrais juste peut-être revenir petit peu en amont, ouais. En amont par rapport à, en gros, ça fait, par rapport à cette question de la relation du travailleur indépendant, économiquement dépendant. En fait, il y a quand même depuis une vingtaine d'années toute une réflexion des juristes, notamment autour d'Alain Supiot, puis ensuite d'Emmanuel Dockès, au fond, qui essaye de penser comme d'ailleurs le dit Dockès, un autre code du travail, c'est-à-dire quelque chose qui finalement aussi, c'est en ce sens-là que je posais le problème du côté du salariat, du côté au fond d'un salariat autonome, c'est-à-dire finalement l'idée qu'on pourrait prendre aussi en compte cette dimension d'indépendance, d'autonomie, mais qu'elle soit réintégrée au fond dans la catégorie de salariat. Je pense que, en tout cas, cet horizon qui est au fond, il y a aussi un caractère performatif du droit qui, à mon avis, est fondamental. Cet horizon dans lequel s'inscrivent un certain nombre de juristes me semble plus intéressant, en tout cas, que la stricte logique, disons, d'une charte. Voilà, c'était un petit peu éventuellement poser les choses en demandant un peu plus et à partir, au fond, d'une tradition quand même de réflexion qui remonte, encore une fois, à quelques nombreuses années.
Sauf que, pardon, mais ça, c'est un petit peu théorique de dire on va créer un salariat autonome. En gros, vous êtes en train de nous dire on va faire des salariés indépendants, des salariés freelance. Reste à l'inventer, ce statut-là. Il n'existe pas.
Oui, effectivement. Oui, bien sûr. Il est à créer.
Et c'est là qu'il s'invente. C'est là qu'il se crée, peut-être. Odile Chani.
Mais ça va complètement dans le sens de toutes les réflexions qui sont portées à une échelle internationale et européenne sur... comment renforcer les droits de l'actif? Il y a une question où il faut à un moment donné, enfin là où je vous rejoins complètement, quelque part effacer la notion de statut pour aller vers un droit renforcé. Alors que ce droit se soit associé à un statut salarié ou se soit associé à un statut de travailleur, quelque part ce qui va compter c'est ce qu'on y met dedans. Et non pas le fait de faire passer d'un statut à un autre avec des droits qui vont changer. Et donc toute cette réflexion-là portée par Supio, portée par tous ceux qui ont travaillé sur le nouveau code du travail, mais aussi portée à l'échelle européenne, je dirais, enfin soutenue à l'échelle européenne, ne serait-ce que par l'approche qu'a retenue la Commission européenne dans le cadre du pilier des droits sociaux.
Quelle est cette approche ?
Qui est une approche, je dirais, inclusive. C'est-à-dire l'idée de dire plutôt qu'une approche dichotomique qui est je suis dans un statut, je requalifie parce que j'ai les indices me permettant de considérer que, et quelque part j'ai une boîte de droit qui m'est ouverte et une autre qui ne me l'est pas ouverte, donc ça c'est quelque chose qui finalement laisse persister les différentiels d'acquisition et de droit et de protection. Une approche inclusive, c'est de considérer que quelque part le droit il est acquis pour le travail quelles que soient les conditions d'organisation de ce travail. C'est-à-dire que typiquement, moi je suis très attentive à ce que me racontent des freelances quand ils me disent « moi je suis discriminée au regard de ma protection sociale parce que je choisis d'être freelance ». Et l'approche qu'a déployée la Commission européenne, enfin en tout cas le triple A social que souhaitait le commissaire, enfin le Juncker, et qui a débouché quand même sur le pilier et un certain nombre de directives, enfin, en particulier une directive dont tout le monde parle, qui est la directive sur les conditions de travail transparentes et prévisibles, c'est justement de dire, est-ce qu'on peut pas poser des jalons concrets qui permettent effectivement d'avoir une approche large des droits, large au sens des statuts. Après, enfin, tout se discute parce que.
Attendez, mais que je comprenne bien, ça veut dire concrètement qu'il faut faire sauter le paysage du droit qui existe aujourd'hui pour en inventer totalement un autre. Il faut arrêter de vouloir passer d'un statut d'un statut à un autre. Il faut tout remettre à plat et tout repenser.
Ce qui est sûr, c'est que les plateformes. Mais comme toutes les transformations un peu radicales de modèles d'organisation, ils font bouger aussi les murs du droit, mais même il faut bouger les frontières du travail. C'est-à-dire que il y a une manière de dire bon bah finalement tout ça on connaît, c'est la continuation de tendances qu'on connaît, la sous-traitance, la précarité, et quelque part on a des solutions qu'on connaît, qui sont là et on va les appliquer, mais il y a une autre qui dit mais en fait quelque part tout ça nous renvoie des transformations qui sont vraiment de grande ampleur et qui nous amènent aussi à réfléchir à la façon dont on protège les travailleurs.
Pas de petits ajustements, une vraie révolution, y compris dans le droit du travail. Patrick Singolani.
Oui, non, mais pour revenir à des éléments sociologiques qui sont plus mon domaine que la question du droit, je pense que cette question des porosités, elle est directement, enfin justement cette zone grise, elle est présente aussi dans la manière dont les gens vont à la fois où la question aujourd'hui des plateformes est en train de finalement dans certains types justement, mais surtout dans les plateformes de travail, finalement de confondre amateurs et professionnels. Il y a des tas d'enjeux qui sont en train de se produire aujourd'hui, la manière dont également les limites même du droit Par exemple, un repos nocturne, etc., disparaissent, puisque finalement, si on prend là, je sors de l'univers français, mais si on prend Uber Pop, c'est-à-dire au fond le fait que n'importe qui peut prendre sa voiture et emmener qui que ce soit à n'importe quelle heure de la nuit, etc., etc. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu pour revenir à la question de la révolution, la révolution technologique. Il y a une révolution effectivement technologique qui peut-être doit faire écho à des formes de réflexion plus approfondies, disons que finalement des mécanismes d'ajustement un peu au coup par coup. Voilà ce que je veux laisser entendre.
Je partage tout à fait ce point, avec un regard qui est forcément différent, parce que du coup, moi, je vais regarder, enfin, on discute beaucoup avec un certain nombre de collectifs, y compris de collectifs qui essayent de faire bouger les murs de l'organisation du travail. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une forme d'inventivité assez féconde pour s'émanciper du cadre de l'entreprise et du management de l'entreprise. À partir du moment où quelque part, les outils technologiques, et c'est ça qui est quand même fondamental, permettent justement d'avoir des communs du travail. J'ai mon commun, j'ai ma manière de prendre mes décisions, j'ai mes outils partagés de chat, parce que tout ça, ça me permet de faire ma gestion de projet. Je suis même en capacité de m'organiser pour avoir des groupes de projets où je fais monter les juniors. Tout ça, en fait, ça permet à un certain nombre d'indépendants ou de freelance, de dire, moi, je souhaite m'émanciper du cadre de l'entreprise. Typiquement, un développeur aujourd'hui, il dit, je peux m'émanciper du marchand d'esclaves que représente ma SS2I ou mon ESN. Et il va le faire avec joie et avec une grande conviction.
Mais Patrick Singolani, il y a une question, et puis ensuite, j'ai vu que vous vouliez réagir, je vous laisserai réagir librement, mais il y a une vraie question qui se pose là, c'est-à-dire que d'un côté, on a ce discours qui consiste à dire, en réalité, ces travailleurs ne sont pas réellement indépendants, en tout cas ils sont économiquement dépendants, et puis de l'autre côté il y a le discours qui consiste à dire oui, il y a aujourd'hui dans le monde du travail en général cette aspiration à plus de liberté, cette aspiration à au fond organiser son propre temps du travail et réarticuler d'une certaine manière le temps du travail, le temps du repos, enfin voilà, mais comment faire la part des choses? Vous êtes un sociologue, si on observe les deux phénomènes, quel rapport de force entre les deux? Alors, est-ce qu'il faut plutôt écouter les seconds parce que effectivement, il y a une lame de fond qui va vers plus de liberté et on veut soi-même organiser les modalités de son propre travail, ou est-ce que il faut plutôt regarder ceux qui en réalité n'ont pas le choix précisément et eux, il faut nécessairement organiser leur protection?
Oui, alors en fait, il y a, je pense, un mouvement. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de le suivre, même si c'est assez difficile parce que ce sont des éléments un peu encore labiles. Il y a un mouvement quand même de critique de la subordination, ou au fond d'une certaine fuite de la subordination, qui me semble tout à fait fondamentale. Mais le fait de chercher à échapper à la subordination, le fait d'essayer de trouver, et d'ailleurs aussi des formes ad hoc, parce que si vous avez 25 ans, lorsque vous êtes sur une Deliveroo, peut-être qu'à 50, vous ne serez pas dans la même logique. Vous êtes étudiant, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins. Mais en tout cas, effectivement, il y a, je crois, quelque chose d'un élément fondamental qui est une prise de distance à l'égard de la subordination et donc des formes de recherche et de quête d'autonomie. Mais ces formes de recherche et de quête d'autonomie, c'est là le paradoxe, et elles ne doivent pas être se solder en termes de perte de protection. Et on voit bien que c'est là où il y a un enjeu, et c'est là aussi il y a une puissance, encore une fois, de dégradation des protections dans cette mise en concurrence, encore une fois, fondamentale que je trouve qu'on trouve constamment à l'œuvre entre des figures, disons, de professionnels. Pensez par exemple aux chauffeurs de taxi qui avaient un savoir-faire, un métier, et puis des formes non professionnelles qui viennent tirer finalement vers le bas, qui viennent tirer vers le bas et désagréger finalement des formes de résistance statutaire.
Mais c'est donc, vous qui dites que ce sont des non professionnels. Demandez au VTC si ce sont pas des professionnels. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire.
D'accord, on va.
Non, mais d'accord. Attendez, oui. Non professionnels, les chauffeurs de VTC aujourd'hui, qui sont dans les grandes villes de France et même partout dans le monde, la grande majorité vous disent, oui, on est des professionnels du transport.
Sauf que dans une certaine mesure, on voit très bien comment l'algorithme est précisément ce qui vient se substituer aussi à un certain type de savoir et vient transformer au fond une certaine relation au travail. Je veux dire, vous étiez dans il y a 20 ans, avec un chauffeur de taxi, il avait un savoir-faire de la ville qui était un savoir d'expérience à partir d'un savoir incorporé, qui était celui de conduire dans une ville et de savoir se repérer dans une ville. Mmh. Aujourd'hui, ce qui caractérise l'algorithme, c'est précisément qu'il se substitue et qu'il monitore le salarié. Encore une fois, oui. Je ne dis pas, je ne cherche pas à dévaluer le chauffeur de VTC ou de Uber, mais ça fait quand même deux, et cela ouvre justement à des formes de crise aujourd'hui, et je parle en termes général, à des formes de crise, disons, de la protection sociale, des formes de résistance qu'il y avait autrefois parmi un certain nombre de professionnels. Ça pourrait être le cas.
D'accord.
Je termine, mais ça pourrait être le cas avec WeWork pour finalement, je ne sais pas, des web développeurs. Ils vont se retrouver en concurrence avec des web développeurs américains ou européens. Vont se retrouver en concurrence avec des web développeurs indiens ou des choses comme ça. Et donc avec évidemment là encore des mécanismes qui tirent vers le bas la rémunération.
Odile Chani, et puis ensuite je voudrais qu'on revienne sur la question de la requalification, qu'on reparle un tout petit peu de droit, parce que c'est quand même au cœur quand même des enjeux qu'on évoque. Odile Chani.
Il y a tellement de choses à répondre à ce que vous venez de dire. Un point quand même sur une réaction sur le côté professionnel ou pas professionnel, en particulier certaines professions. Tout l'enjeu, quelque part, c'est de savoir si un certain nombre de services et de plateformes qui produisent ces services entrent ou pas dans un champ qui relève d'un champ sectoriel professionnel. C'est exactement ce que le juge Spoussnard, dans un arrêt de le juge, donc un avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, a décidé en décembre 2017 sur un cas Uber, où il a dit... Uber est une entreprise qui relève du secteur de transport. Et ça entraîne un certain nombre d'obligations, de respect, de contraintes réglementaires. La loi Grand-Guillaume en France, qui donc s'applique au secteur VTC, quelque part, elle a aussi acté le fait que les VTC sont des acteurs de la mobilité, du transport de personnes en milieu urbain, et que pour clarifier et apaiser, parce que on était quand même dans un champ de concurrence déloyale dans un secteur très précis du point de vue sectoriel, il était nécessaire d'assurer la professionnalisation et la qualification de l'ensemble des personnes qui exercent cette profession, qui est elle-même revendiquée par les VTC. Alors, juste un point, si je puis me permettre, si vous m'autorisez.
Il y a
une question qui est soulevée, qui est très fondamentale, me semble-t-il, quand on réfléchit aux droits et aux protections des travailleurs des plateformes, mais qui finalement est un peu sous-jacente, c'est l'autonomie économique et la logique économique qui va derrière. En gros, pour le dire de manière un peu plus claire, c'est... En fait, il ne sert à rien d'essayer de se dire comment est-ce que je peux garantir un revenu minimum à des travailleurs de plateforme si le modèle économique de la plateforme est tel qu'en fait ça ne peut fonctionner que un, parce que j'ai comme variable d'ajustement la rémunération que je paye au chauffeur et que je suis sur un segment qui ne dégage pas de valeur ajoutée et que de toute manière c'est pas un problème parce que je peux vendre à perte et pas faire de profit. Uber fait des pertes colossales, Deliveroo est à peine arrivé à dégager des bénéfices récemment, et en fait le point, c'est de se dire, mais en gros, est-ce que oui ou non, ces modèles intermédiés par les plateformes sont des modèles qui permettent d'être viablement économiques à partir du moment où on va introduire des protections relatives au salaire minimum. C'est pas évident du tout.
J'indique juste, là, je me permets, puis je vous passe la parole, Patrick Sagolani, j'introduis un élément, une information. Janvier 2019, il y a une étude qui a été publiée par Uber lui-même qui révélait que, en moyenne, un conducteur, je vous vois lever le doigt, vous allez le faire, un conducteur gagnerait 9,15 € de l'heure. C'est un revenu horaire net après versement de la commission due à la plateforme, c'est 25%. Les frais de service, la TVA, les cotisations sociales, et ça représenterait, toujours selon Uber, un revenu net mensuel de 1 617 €, en supposant que le chauffeur est connecté 45 heures par semaine à l'application. Patrick Sagolani, Patrick Sagolani, on va distribuer la parole.
Sur ce point, donc il faut quand même rappeler que probablement ce chauffeur s'est endetté pour acheter son automobile. Oui. Et justement, je voudrais rebondir sur cette question, sur le fait que ce qui émerge aujourd'hui comme forme de capitalisme, c'est quand même un capitalisme qui, finalement, je vais essayer de répondre aussi à la question tout à l'heure, c'est un capitalisme, au fond, qui rend les travailleurs, incite, voire contraint les travailleurs à devenir les propriétaires de leurs moyens de production. Il y a quand même là un énorme paradoxe. Et au fond, on pourrait tirer un fil fondamental. C'est pour ça que on peut aussi revenir jusqu'à la sous-traitance. Au fond, on voit très bien que de plus en plus le capitalisme contemporain a tendance à faire plutôt qu'à faire lui-même. C'est-à-dire que déjà, c'est le cas avec la sous-traitance, avec des formes d'externalisation très lointaines. Mais dans une certaine mesure, la structure même de la plateforme est une manière de faire par d'autres le travail et y compris d'ailleurs il faudra revenir à un moment peut-être là-dessus, y compris le travail d'organisation du travail, puisque c'est le client qui note. Donc c'est quand même un paradoxe d'ailleurs sur lequel il faut qu'on s'interroge. Et là je rebondis sur ce qui avait été dit tout à l'heure à propos des formes d'auto-organisation des travailleurs. Je pense que c'est effectivement aussi une manière d'envisager les choses que de prendre le parti que dans ce grand mouvement qui finalement pousse les travailleurs à faire, que les travailleurs s'approprient eux-mêmes la plateforme ou s'approprient des formes d'organisation qui leur permettent enfin de faire dans une certaine distance à l'égard de l'organisation de la plateforme comme dans son asymétrie, disons, qui vient de San Francisco ou d'autres grandes villes nord-américaines, entre autres.
Odile Chani, sur la question du salaire, et puis ensuite je voudrais revenir sur la question de la requalification, on va y arriver. Odile Chani.
Je réagis comme ça, tout de suite, ça va la continuité. Il existe des collectifs qui justement essayent de s'émanciper, et on en connaît. Par exemple, une entreprise comme CopCycle, qui est un collectif de livreurs à vélo, clairement, ils choisissent un statut coopératif où ils sont propriétaires de leur moyen de production et ils sont propriétaires aussi de leur entreprise. Mais la question qu'on a, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut donner de la visibilité, comment est-ce qu'on peut financer et comment est-ce qu'on peut permettre à ces formes alternatives-là d'émerger économiquement. Et du coup, je rebondis sur la question des salaires. En fait, oui, de fait, ce qui s'est passé sur la période postérieure à l'application de la loi Grand-Guillaume, c'est que quelque part, il y a eu une réduction du nombre de VTC, et que comme le prix est très dépendant, immédiatement dépendant, parce qu'on est sur des marchés très instantanés de l'offre et de la demande, et cette forme de régulation a permis aux chauffeurs probablement de dégager un revenu qui est aujourd'hui meilleur que celui qu'ils avaient il y a 3 ans. Et d'ailleurs, ça a aussi contribué à l'apaisement de la situation conflictuelle. Je vous rappelle qu'il y a eu un certain nombre de mouvements assez musclés et revendicatifs. Mais la question que ça soulève immédiatement, c'est en fait tout ça, ça peut changer. Et là, pour le coup, une des mesures qui a été adoptée dans le cadre de la loi LOM de l'article 20, ça a été le fait d'assouplir les conditions d'examen pour les chambres de métiers d'artisanat, puisqu'à l'heure actuelle, les VTC qui peuvent accéder au statut de VTC doivent passer un examen et que ces examens passent par les chambres, sont coordonnés par les chambres de métiers et d'artisanat. Or, cet assouplissement-là qui est souhaité par les plateformes visera aussi à permettre à un certain nombre d'acteurs de faire passer ces examens. Et une des conséquences possibles, ça peut être une réaugmentation du nombre de VTC. Et cette réaugmentation-là, elle potentiellement peut porter en germe des effets concrets sur les rémunérations. Ouais. Donc, en fait, on est vraiment dans des logiques où, quelque part, on a une sorte de surdétermination économique avec justement une forme d'incapacité, de grande difficulté à maîtriser les paramètres d'organisation du marché quand ils sont maîtrisés par des acteurs que sont les plateformes.
Ouais, d'où la nécessité de réguler. Patrick Saint-Golani, un mot avant la requalification, parce que je vais y arriver, je vais la glisser. On y va sur la requalification, parce que ces derniers mois, Odile Chani, je me tourne vers vous, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées devant les prud'hommes. C'est le cas, par exemple, de plusieurs chauffeurs Uber qui se sont tournés vers le Conseil des prud'hommes de Paris, qui demandaient une requalification de leur contrat de partenariat avec la plateforme Uber. Et il se trouve qu'en mars dernier, les conseillers prud'hommes ont décidé de renvoyer l'affaire devant une formation incluant un juge professionnel. Il y a plusieurs questions là-dedans, c'est finalement pourquoi? Pourquoi est-ce que finalement ces prud'hommes n'ont pas voulu, n'ont pas pu trancher cette affaire-là? Et de façon plus générale, est-ce que le droit pourrait finalement contraindre tout le monde, forcer ce glissement vers le salariat, au risque d'ailleurs peut-être de faire s'effondrer un modèle économique qui sans le principe du freelance peut effectivement péricliter.
Alors, avant les prud'hommes, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation sur Teki Tizi qui était très important parce qu'en fait, il a acté la requalification d'un livreur en salarié. Et en fait, c'est ce qui est extrêmement intéressant dans l'examen qu'on peut faire de la jurisprudence actuelle, c'est qu'en gros, ça bouge. Et ça renvoie au fait que les indices de la subordination, comme le disait Supio et d'autres, ils sont mouvants, ils sont pas fixes. Donc en fait, ce qui un jour peut être qualifié d'indice de subordination va conduire à une requalification pour le lendemain, parce que la plateforme, elle peut bouger aussi. La plateforme, elle est flexible et donc elle peut ajuster les paramètres de contrôle sur les travailleurs de sorte à ce que ce soit pas retenu comme un indice. Alors ça, c'est indépendamment des chartes. Et ça, on a des exemples concrets. Par exemple, typiquement en Royaume-Uni, Deliveroo, enfin il y avait eu un syndicat qui avait demandé que les chauffeurs de Deliveroo puissent négocier, donc comme ça contrevient au droit de la concurrence, du coup il fallait qu'ils aient pas un statut de worker mais d'employé, worker, et en fait ce statut leur a été refusé, notamment parce que Deliveroo avait introduit une clause dans le contrat qui permettait aux livreurs de sous-traiter à quelqu'un d'autre leur course, et donc du coup ils sortaient des cadres être considérés comme la qualification. En fait, vraiment, il faut se dire que la flexibilité, elle est partagée. Et donc, quelque part, la stabilité juridique, elle n'est pas du tout assurée. Et on le voit, la jurisprudence européenne passe notre temps à nous dire un coup, c'est tel statut, un autre coup, c'est un autre statut, puis la plateforme change l'algorithme. Et donc, en fait, il y a vraiment, je dirais, une forme de malléabilité à l'heure actuelle, compte tenu justement de l'enfermement qu'on a dans des critères très précis de subordination qui nous renvoie à la question de la jurisprudence.
Ouais. Patrick Singolani, sur cette question du lien de subordination, on voit qu'il est extrêmement fluctuant. D'abord, c'est difficile évidemment pour les juges de trancher, mais en plus, il bouge ce lien.
Oui, je pense qu'il y a, c'est ce que j'avais évoqué un petit peu tout à l'heure, il y a ce mouvement, il a été question d'émancipation, je pense qu'il y a aussi tout un mouvement, et on pourrait en parler de flexibilité, d'ailleurs j'hésitais à savoir de quel côté se trouvait la flexibilité, elle est aussi dans les usages, parce que justement, je pense qu'une certaine logique, soit économique, soit sociologique, a tendance à ne pas saisir la dimension d'usage qui peut être fait, du travail, de plateformes, etc., et qui sont aussi des formes de déplacement de la question de la subordination, de éventuellement au sens machinique du terme, de jouer avec c'est-à-dire de déplacer cette subordination. Et là, il y a effectivement tout un enjeu. Ce sur quoi je voulais juste un tout petit peu revenir sur la question Teki Tizi, c'est aussi au fond le sentiment qu'un certain nombre de, parce qu'il y avait ça aussi dans le procès, c'était la question, c'était aussi la question que un certain nombre de travailleurs avaient été lâchés sans être rémunérés. Et ça réouvre quelque chose encore une fois du côté de cet élément de porosité, d'incertitude. C'est toute la, aujourd'hui, c'est la question de la déconnexion. Les gens vous parlent que tout d'un coup, la plateforme vous plaisait pas, ça ne va pas, on vous déconnecte. Et d'ailleurs, cette déconnexion peut être perçue comme un élément de subordination, parce que finalement, le fait de dire vous, voilà. Donc il y a vraiment des pratiques aussi là qui sont vraiment à prendre en compte dans le type de fonctionnement des plateformes.
On est avec vous, Patrick Singolani, Odile Chani, dans cette série consacrée au travail, aux nouvelles conditions de travail aujourd'hui, les exploités de la zone grise. On parle de Uber et compagnie. On va prendre la direction des États-Unis.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et en particulier de la Californie, puisque l'Assemblée californienne a voté fin mai une loi visant à empêcher les entreprises d'abuser de ce statut de travailleur indépendant. Reste à voir si elle sera validée par le Sénat, ce qui est assez probable puisqu'il est majoritairement démocrate. C'est une première aux États-Unis où la situation des travailleurs de cette zone grise, officiellement indépendants, mais en pratique totalement dépendants de leur employeur, en particulier des plateformes numériques, est très contrastée, variant d'un État à l'autre, voire même d'une ville à l'autre. Bonjour Donna Kesselman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Est Créteil, sociologue du travail et une spécialiste des droits sociaux aux États-Unis. Ce texte voté par la Chambre des députés de Californie, c'est l'Assembly Bill 5. Est-ce que vous pouvez d'abord, pour commencer peut-être, nous présenter un peu ce texte en quelques mots et nous dire ce qu'il pourrait changer concrètement, Donna Kesselman?
Oui, présenter ce texte vraiment sans précédent est très important, mais comme vous l'avez dit vous-même, qui se passe dans un contexte très complexe et sur lequel il faudrait revenir. Oui, donc sans précédent, parce que c'est qui accorderait des droits salariaux à des chauffeurs comme Uber, dans les entreprises comme Uber et Lyft, mais au-delà, parce que c'est une loi qui cherche à combattre contre le salariat déguisé en tant que tel, qui est un problème en augmentation constante, et notamment en relation avec les plateformes numériques. La loi introduit deux choses très importantes. Premièrement, sur les critères de qualification, vous en avez discuté un peu dans l'émission, c'est une question centrale, et qui introduit trois critères, donc limité et très clair par rapport à d'autres faisceaux d'indices dans la loi. Et deuxièmement, au moins aussi important, qui est nouveau, c'est qu'il y a une présomption de salariat. Ça serait une présomption de salariat et c'est l'entreprise contractante qui serait obligée de prouver que le travailleur fournisseur de services serait indépendant et non pas salarié. Donc
et alors, quels seraient les critères, justement? Quels seraient justement ces critères qui permettraient éventuellement aux entreprises de démontrer que ces employés, les employés qu'elles sollicitent, sont indépendants?
Les critères sont au numéro 2, 3. Premièrement, la question de contrôle. Bon, il y a des critères de contrôle tout à fait classiques, contrôler le travail, etc. Mais le plus important, comme le disait Patrick Saint-Gonnet à l'instant, c'est cette question d'évaluation du travail. L'évaluation qui se fait actuellement, surtout par la notation des clients, et qui permet effectivement cette déconnexion qui, il faut dire licenciement, hein, pour ceux qui sont contre le système, et d'une façon qui manque de transparence et qui est critiqué comme arbitraire. Deuxièmement, c'est que le fournisseur de travail devrait avoir une entreprise indépendante avec toutes les prérogatives que ça implique, comme on le disait tout à l'heure, pouvoir négocier les prix de course, choisir ses clients, etc., qui n'est pas le cas actuellement. Et troisièmement, et c'est intéressant, c'est que le service fourni ne doit pas être central la question, donc, le service fourni par les plateformes. Et c'est là où la décision européenne qui a déterminé que Uber est une entreprise de transport est fondamentale. Parce qu'il est clair que si c'était seulement une entreprise de technologie comme prétendait Uber, ça serait pas le transport. Mais il est clair que les chauffeurs qui fournissent le transport est central à l'entreprise de transport.
Donna Kesselman, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que d'autres États suivent ce chemin de la Californie? Est-ce que pourquoi pas même, on pourrait imaginer une loi fédérale?
Justement, il y avait une tentative de loi fédérale en 2015 et qui n'a pas pu passer. C'était une loi qui était très très orientée en faveur des compagnies et c'est parce que cette loi n'a pas été votée que maintenant il y a des choses qui se passent au niveau des États mais aussi au niveau des villes et qui sont très contrastées. En 2018, à partir de la Floride, il y a eu 11 lois introduites dans 11 États différents. Pour permettre la qualification en travailleur indépendant, notamment et surtout pour les questions des chauffeurs. Dans 6 États, la loi est passée. Dans 5 États, la loi a été repoussée. Mais ce n'est pas pour autant dans ces États qu'il y a eu une loi aussi positive qu'en Floride. Alors, ce qui est intéressant dans ces États, je fais noter que dans ces États où il y avait certains États dans le nord où la loi est passée, donc en donnant le statut de travailleur indépendant, mais y compris des États qui ont repoussé la loi. Il y avait des États dans le sud, parce qu'on pense toujours que le sud, c'est toujours anti-salarié, anti-travailleur. La Géorgie et la Caroline du Sud ont repoussé cette loi de qualification automatique en travailleur indépendant.
Mais est-ce qu'on peut rester dans cette situation, Donna Kesselman, avec une grande inégalité finalement entre les différents États, ou est-ce que vous pensez qu'à terme il va falloir trancher cette question-là, harmoniser un tout petit peu les choses?
Déjà, pour compliquer des choses, si vous permettez, il y a aussi la question des villes. Donc il y a des villes qui sont de côté vers non seulement le travail indépendant, mais carrément la privatisation du service de transport public. Il y a un partenariat avec la ville de Denver, par exemple, qui permet à ce que des courses soient subventionnées par la ville, qui remplacent les bus, ça se passe d'ailleurs en France, hein, il y a un partenariat qui se développe dans la ville de Nice, par exemple. Mmh. Mais il y a d'autres villes très progressistes ou en faveur, disons, des conducteurs. Le précurseur était la ville de Seattle, qui voulait que les travailleurs soient qualifiés taxi et VTC en salariés pouvant syndicaliser et négocier. C'était bloqué par les tribunaux pour le moment, mais la ville a introduit un tarif minimal pour chaque course.
Alors je réintroduis ma question, Donna Kesselmann, parce qu'on comprend que c'est encore plus compliqué si on ajoute la strate des villes. Alors, est-ce qu'il va falloir harmoniser? Est-ce qu'on va pouvoir continuer avec cette inégalité?
Tout à l'heure, si vous voulez, on reviendra sur le contrat d'arbitrage. Mais alors, la question de harmonisation. Il y a deux façons d'harmoniser, soit une loi fédérale, et ça semble difficile, soit la Cour suprême. Maintenant, la Cour suprême, vous savez, il faut que la Cour suprême tranche les questions de société quand il y a réellement un problème de déterminer le consensus et qu'il y a une contestation importante.
C'est le cas,
comme,
là.
Par exemple,
c'est le cas.
Le mariage pour tous.
Ah, c'est un problème de société. Ça concerne beaucoup de travailleurs.
Oui et non. Ça concerne beaucoup de travailleurs, mais il faut un rapport de force organisé. Si la plupart des États vont dans le sens des entreprises, ce n'est pas les entreprises qui ont les moyens de mobilisation, la consensus et une contestation, qui vont contester. Est-ce qu'il va y avoir une réaction assez forte pour que ça monte à la Cour suprême? Ce n'est pas impossible, parce que, comme vous savez, il y a quand même une résistance.
Vous restez avec nous, Donna Kesselmann. Je voudrais faire réagir peut-être nos invités. Vous restez avec nous. Hein. J'ai d'autres questions à vous poser. Odile Chani, Patrick Singolani, vos réactions sur ce cas américain, californien en particulier?
Alors, bonjour Donna. Donc, en fait, cette diversité qu'évoque Donna Kesselmann, quelque part, on la retrouve complètement dans le cas européen.
En Europe,
et typiquement, on pourquoi? Parce qu'en fait, on part d'un no man's land. On a un no man's land au départ. On a des nouveaux acteurs économiques qui sont hors champ de tout droit, à part le droit de la concurrence et encore. Donc, il faut exposer tous les cadres. Donc, en gros, le fait qu'il y ait des initiatives, une prise de conscience, une maturité croissante des acteurs, mais quel qu'il soit, le juge étant pas forcément en avance là-dessus, fait qu'en fait, on a plein d'accords et d'arrangements. Et puis, je vais juste atterrir là-dessus sur ce qu'a évoqué Donna sur les villes, on voit aussi de plus en plus les villes intervenir dans le champ de la régulation des opérateurs de mobilité. Et typiquement, par exemple, il y a une charte qui a été signée en Italie qui s'appelle la charte de Bologne, hein, qui justement, en fait, vise à introduire un certain nombre de protections. Alors là, on est sur le champ de la food tech, donc des livreurs à vélo, mais qui, en fait, acte le fait que l'espace urbain ne s'incommode pas de conditions de travail de ces travailleurs-là qui ne soient pas effectivement cohérents avec les souhaits de la politique de mobilité de la ville.
Patrick Singolani.
Oui, enfin, moi aussi, je suis. Bonjour Donna, d'ailleurs, je suis très intéressé effectivement par ce que vient de nous dire Donna. En même temps, justement, par rapport à une logique un peu anglo-saxonne, enfin, je pense notamment à ce qui nous vient d'Angleterre, où on a quand même le sentiment qu'on est rentré dans des logiques extrêmement pénitentielles, avec le zero contract, etc., etc. Donc, on a des figures d'un capitalisme anglo-saxon assez inquiétantes et qui vont vraiment du côté de dérégulation, de faire travailler. D'ailleurs, il faudra peut-être revenir autour de ça, de faire travailler tous les travailleurs de manière interstitielle, c'est-à-dire se saisir de toutes les occasions pour les faire travailler dans une espèce de convocation. Là, on voit que finalement quelque chose se dessine, d'expérimentation, de tentative de régulation, qui me semble extrêmement intéressant.
Il y a une question avec laquelle on a discuté avec une Américaine qui est au BIT, qui s'appelle Anna Johnston.
Bureau international du travail, pour les auditeurs.
Oui, Organisation internationale du travail, qui a en fait l'idée de dire, en gros, une des pistes aussi qu'on peut avoir de régulation, c'est des formes de coalition d'acteurs. Parce que quelque part, pour pouvoir avoir et dégager des modèles économiques qui permettent d'assurer des protections qui soient enfin décentes, mais qui on peut espérer aillent au-dessus de ce qui peut être décent, ça passe par un prix et par la responsabilisation du consommateur. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais se sortir d'un modèle dans lequel on accepte de payer, enfin on n'accepte pas de payer un prix pour une prestation de service. Et on s'étonne que à la clé il y ait des rémunérations ou des revenus du travail qui soient très faibles, une précarité, une flexibilité qui soit au détriment des conditions de
donc
travail.
Donc c'est la faute du consommateur, sécurité. C'est parce qu'il accepte de payer moins cher que tout cela arrive.
C'est typiquement un billard à plusieurs mondes. Et le consommateur, mais les municipalités, enfin clairement des coalitions d'acteurs telles qu'on peut les voir à une échelle d'une ville, d'une municipalité, par exemple, je prends la charte de Bologne, c'est l'idée de dire, on responsabilise l'ensemble des secteurs pour effectivement arbitrer sur les choix de la collectivité.
Patrick Saint-Gaulagny.
Oui, non, je pense que, enfin, je rebondis sur la question du consommateur, puisque j'ai évoqué la question de la notation, et également dans les logiques, on voit très bien qu'aujourd'hui, dans les logiques de sous-traitance, d'externalisation, et souvent où il y a des formes d'opacité qui occultent finalement le fait qu'un certain nombre de travailleurs soient dans des conditions souvent aux limites du légal, etc., etc. Le consommateur doit avoir un rôle, et en tout cas, je pense qu'il y a l'exigence d'un engagement plus grand du consommateur, à la fois autour de la question des plateformes, effectivement, s'interroger quand même dans une société où finalement on dénonce un peu ces formes autoritaires, la note, etc. Finalement, spontanément, les gens se mettent à noter les autres, enfin, et se substituent finalement à des logiques de management. Et puis, de l'autre côté, une logique du consommateur par rapport à ce que, effectivement, il consomme et les conditions éventuelles et la question de l'information sur les conditions éventuelles des travailleurs qui produisent un certain nombre de biens très à la mode.
Comment on fait émerger cette prise de conscience concrètement? Comment on fait émerger cette prise de conscience? Parce que très honnêtement, le client, quand il peut payer moins cher, il le fait. Donc comment est-ce que vous le poussez à avoir cette prise de conscience, Patrick Saint-Gaulagny? C'est à vous que je pose la question.
Tout simplement, l'élément fondamental, c'est aussi tout un travail d'information des syndicats, d'un certain nombre d'associations, etc. Au demeurant, il y a une loi qui est apparue, qui est la loi vigilance, donc sur la responsabilité des entreprises. Donc il y a quand même des éléments maintenant qui me semblent importants dans cette dynamique. Et puis l'horizon aussi, c'est peut-être, c'est pas très français, ça appartient plutôt à la tradition nord-américaine, c'est la question du boycott. En tout cas, à divers moments, le boycott a pu apparaître aussi comme une forme d'accentuation sur un problème concernant les producteurs d'un certain nombre de biens.
Odile Chani, on arrive au terme de cette émission, donc en guise de conclusion.
Il y a deux points. Quelque part, en France, on a déjà essayé d'avancer sur ce terrain de la responsabilisation du consommateur avec la loi Grand-Guillaume, qui a instauré des commissions nationales et territoriales de l'ensemble des parties prenantes du secteur des transports de personnes par véhicule, et qui a inclus les représentants des associations de consommateurs dans les commissions. Je pense que la responsabilisation du consommateur qui va pas du tout de soi, elle sera d'autant plus faisable qu'on opère à des échelles qui sont celles où il y a une visibilité, et donc l'échelle du territoire et de la ville, des espaces restreints et probablement féconde pour ça. Showing me the way in this world we live in. Pumping through my heart, it's an algorithm.
Merci beaucoup à Donna Kesselman qui était à l'instant avec nous par téléphone, qui, je le rappelle, est professeure à l'université Paris-Est Créteil, sociologue du travail, une spécialiste des États-Unis. Merci également à nos deux invités ici en plateau. Odile Chani, je rappellerai que vous êtes économiste et coordinatrice du réseau Sharers and Workers. Merci beaucoup. Patrick Saint-Gaulagny également. Je rappellerai vous concernant la précarité, c'était paru au PUF en 2017, mais aussi Révolution précaire, essai sur l'avenir de l'émancipation qui était paru à la Découverte. On mettra les références de ces ouvrages sur la page de Culture Monde sur le site de France Culture. Merci beaucoup à tous les deux. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous revenez sur la courte introduction à la pensée de Frédéric Hayek, qui vient de paraître dans la collection Le bien commun chez Michalon, l'influence de ce penseur qui était loin d'être uniquement un économiste, a exercé à certains moments une influence contesté.
C'est vrai, quoi qu'il ait obtenu le prix Nobel d'économie en 1974, Thierry Aymard, l'auteur de ce livre que vous rappeliez, rappelle lui fort opportunément que durant les années 30, deux économistes ont dominé les débats en s'opposant sur les causes de la crise de 29 et donc sur les moyens à déployer pour y remédier. Vous aviez d'un côté Keynes, qui démontrait que les forces du marché livrées à elles-mêmes étaient dans l'incapacité d'assurer le plein emploi, contrairement à ce que prêchait alors la théorie classique. Il préconisait, en conséquence, d'agir sur la demande, en augmentant à la fois les revenus et la dépense publique. Quant à la politique monétaire, elle n'était à ses yeux que la servante de cette politique budgétaire expansionniste. Keynes suggérait même, avec sa fameuse expression de « l'euthanasie du rentier », que l'inflation, probablement entraînée par ces politiques dites de « relance budgétaire », n'était pas forcément une mauvaise chose. Mais de son côté, Hayek attribuait l'origine de la fameuse crise, non pas à une insuffisance de la demande, mais au contraire à l'excès du crédit. Lorsque les taux d'intérêt sont maintenus artificiellement bas durant une longue période, disait-il, les consommateurs, comme les entrepreneurs ou les investisseurs, sont tentés de s'endetter de manière exagérée. Et comme l'épargne est peu rémunérée, eh ben, nul n'est incité à mettre de l'argent de côté. L'euphorie est mauvaise conseillère. On achète à tour de bras en s'endettant pour pas cher, des actions, des maisons, bah pourquoi se priver puisqu'on est sûr de revendre n'importe quand en empochant un substantiel bénéfice. Et il se crée ainsi des bulles spéculatives.
Et ce que suggère Thierry Aymard, donc dans son livre consacré à la pensée Friedrich Hayek, j'ai un peu de mal, c'est que nous ne sommes pas sortis de ce débat, Brice.
Mais au contraire, il a ressurgi à propos de la crise de 2008. Pour les partisans de Keynes, les économies occidentales ayant failli s'effondrer, il faut pour s'en sortir un coup d'accélérateur sur les dépenses publiques. Et comme les États sont déjà très endettés, ben il faut leur permettre de continuer à le faire à des taux très bas. D'où cet appel au secours adressé aux banques centrales. Non seulement celles-ci sont invitées à écraser leur taux d'intérêt, mais elles rachètent discrètement une partie de ces dettes publiques. Mais voilà que le débat Hayek-Keynes ressurgit. Car pour les partisans de Hayek, cette politique de déficit budgétaire et de liquidité surabondante, ça s'appelle de la fuite en avant. Dans l'espoir d'empêcher le déclenchement de la dépression qui menace, on se contente de la retarder, au risque de l'aggraver sévèrement quand elle éclatera. Pour Hayek, le taux d'intérêt est censé ajuster, je cite, « l'offre d'épargne réelle à la demande d'investissement ». Eh bien, en l'abaissant artificiellement, afin de satisfaire la boulimie de l'État, on envoie aux acteurs économiques de fausses informations sur la disponibilité réelle en capital. Or, pour Hayek, on doit faire confiance aux acteurs économiques pour adapter rationnellement leur comportement. Mais oui, seulement dans la mesure où ils disposent des bonnes informations sur l'état du marché. Et les prix sont précisément ces signaux. Je cite ici Thierry Aymard. « Quand l'illusion monétaire se dissipe et que le réel s'impose finalement, il est trop tard pour réagir. » Seulement voilà, comme l'écrivait cette fois Hayek lui-même, il n'est pas surprenant que les hommes désirent éluder le choix pénible que la réalité leur impose. Et au passage, les banques profitent de largesses destinées aux États pour se procurer d'énormes masses d'argent de frais à des taux ridiculement bas. Pourquoi se gêner encore une fois? Pour Hayek et ses disciples, ce sont les banques centrales qui sont les principaux responsables des crises actuelles. Pendant et après la guerre, Hayek, qui était devenu citoyen britannique et enseigné à la London School of Economics, était tombé quelque peu dans l'oubli. Le libéralisme qu'il incarnait était devenu démodé. Les politiques de reconstruction et la nécessité surtout de développer les États-providence modernes ont fait alors de Keynes le prophète des temps nouveaux. Alors même que John Maynard Keynes lui-même se tuait à la tâche en menant des négociations difficiles pour le compte du gouvernement britannique. Paradoxalement, cet économiste est devenu de nos jours la référence de tous les sociaux-démocrates alors qu'il appartenait de son vivant au parti libéral et non pas au parti travailliste. Mais à la fin des années 70, lorsque les politiques dites de relance s'avérèrent incapables de booster la croissance, lorsque la Grande-Bretagne en particulier se débattait dans la fameuse stagflation, conjuguant les inconvénients de la stagnation et ceux de l'inflation, c'est Hayek qui redevint à la mode. On sait, Margaret Thatcher en imposait la lecture à ses ministres. Pour autant, comme le rappelle Thierry Aymard, Hayek lui-même ne se considérait nullement comme un conservateur. Il comptait sur le marché pour faire sauter les rentes et les privilèges installés.
Merci beaucoup Brice Couturier. Vous nous rappelez le titre de ce livre de Aymar sur Hayek?
Non, je peux pas.
Bon, c'est chez Michelon.
Ça s'appelle De la pensée à l'économie ou quelque chose comme ça.
Merci beaucoup.
C'est chez Friedrich Hayek.
Ok, chez Michelon. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Patrie.